Bonsoir. Alors, pour qui allez-vous voter dimanche prochain? J'aimerais bien vous influencer. Selon le fonctionnement des neurones miroirs, je vais vous dire pour qui moi je vais voter et en principe, vous aurez envie de m'imiter, c'est scientifique. Je vais voter pour un homme. Il n'y a pas de femme qui se présente ou bien j'ai raté un épisode. Ce qui ne serait pas impossible parce que finalement, j'y connais absolument rien. Je ne suis même pas la campagne, ce qui ne m'empêche ni de voter ni d'avoir une opinion. Donc, comme président, un homme riche, parce que ça prouve qu'il sait se débrouiller dans la vie, comme ils ont fait les Américains avec Trump. Un homme beau, ben là on oublie Trump le pauvre. Un homme beau parce que si on doit le voir tout le temps à la télé, autant qu'on y prenne du plaisir. Un homme sage, qui dit des trucs qu'on aura envie de mettre en fond d'écran ou sur son frigo. Un homme intelligent, qui a fait plusieurs études, l'ENA, Centrale, avocat, médecine. On n'en a jamais eu dès qu'on fait médecine. C'est bien ça, faut de la mémoire, puis s'occuper des autres. Parce que ils ne s'occupent pas tellement des autres, en fait, les candidats. Si, ils s'occupent des autres qui votent pour eux, ou des autres qui ne votent pas pour eux pour les transformer en autres qui votent pour eux. Mais en fait, à part pour qui on vote, ils s'en foutent de ce qu'on fait. Ah, puis si, j'oubliais, il faut qu'ils parlent bien. Sinon, on ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que déjà, quand on comprend ce qu'il dit, on ne comprend pas ce qu'il pense. Bon, bah, je crois que j'ai été claire. Je pourrais être candidate.
France Inter. État d'esprit. Noël Bréham.
Laurent Gounel, bonsoir.
Bonsoir Noël.
Merci d'être venu jusqu'ici.
Merci à vous.
Alors, vous êtes l'un des romanciers les plus lus et les plus traduits dans le monde. Vous n'écrivez ni des livres de développement personnel, ni des essais philosophiques ou spirituels, mais des romans à message. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Depuis L'homme qui voulait être heureux en 2008 et Ce petit dernier, et Tu trouveras le trésor qui dort en toi, édité chez Kero, vous nous dites toujours quelque chose. Cet attrait, pour l'essentiel, vous l'avez eu quand? Très jeune, vous vouliez être psychiatre?
Oui, c'est exact, mais j'en ai vite été dissuadé par le médecin de famille. En fait, pour mettre ça dans le contexte de l'époque, ça devait être peu après ou au moment de 1981. Ouais. Vous voyez, donc rappelez-vous, Mitterrand venait d'être élu. Ouais. Il y avait énormément de peur, de fantasmes par rapport à ça. Et le médecin de famille m'a dit non, la médecine, en médecine, on va tous devenir des fonctionnaires. Tu seras pas libre. Ouais. Voilà, il m'avait peint un tableau assez apocalyptique de sa profession et il a réussi à m'en dissuader.
Alors, donc, finalement, vous avez fait autre chose. Vous avez entrepris des études de sciences économiques à Dauphine. C'est très coté, ouais. La fac de Dauphine.
Ouais, ouais, pas mal.
Vous avez bien travaillé, comme on dit.
Oui.
Et puis, patatras, vous avez été assez secoué émotionnellement. Et puis, du coup, vous avez opéré carrément un grand changement.
Oui, alors, en 1989, quand je suis rentré dans la vie active, en fait, autant j'avais aimé mes études à Dauphine qui étaient stimulantes intellectuellement, autant quand je me suis retrouvé jeune cadre au sein de la direction financière d'une grande entreprise avec deux ordinateurs sur mon bureau et surtout des piles de listings comportant des chiffres analysés dans tous les sens. Là, ça a été un choc et je me suis vite rendu compte que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne.
Pourtant, c'était un beau bureau avec un joli costume et puis un niveau de vie qui devait être agréable.
Oui,
il y avait
oui,
des trucs sympas qui allaient avec.
Tout à fait, vous avez tout compris, c'est exactement ça. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas passer 40 ans, c'était seulement 40 ans à l'époque, à faire ça. Quoi, vous voyez, c'est un métier dont je réalisais subitement qu'il n'avait pas de sens pour moi, même s'il peut tout à fait en avoir pour d'autres.
Du coup, je me suis sans mépris pour la fonction.
Ah oui, non, pas du tout. Non, mais je pense que chacun de nous porte en lui une sorte de mission, vous voyez. Je pense qu'on a des talents qui, pour beaucoup de gens, restent cachés, malheureusement, et qui révèlent une sorte de direction vers laquelle on peut aller, une sorte de mission.
On est venu ici-bas, ou ici-haut, je ne sais pas d'où on vient, en fait, mais pour faire quelque chose.
Je pense, oui.
Ouais, et si on ne fait pas la chose pour laquelle on est faite, on n'est pas confortable.
On n'est pas confortable et oui, peut-être même qu'on peut avoir des ennuis de santé au bout d'un moment. Oui, je le vois presque comme un devoir de rejoindre son destin ou sa mission, tout comme d'exploiter ses talents. Moi, ça me rend triste de voir des gens qui sont parfois bourrés de talents, dont ils ne font rien. Et je pense que c'est... Oui, c'est presque un sens du devoir. Ça doit être mon côté protestant, vous voyez.
Et alors donc, vous changez de vie, c'est pas mal de le faire, parce qu'en parler, en rêver, c'est une chose, le faire, ça en est une autre. Vous avez donné votre démission, c'est comme ça que ça s'est passé?
Oh ben, c'est moins glorieux que ça, j'ai fini par me faire virer. J'ai survécu, je me suis maintenu la tête hors de l'eau pendant 5 ans dans le monde de l'entreprise,
en
errant un peu, en souffrant fortement et en errant de poste en poste. Et puis, vous savez, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on est rarement bon. C'était mon cas, surtout que j'ai toujours eu du mal à me forcer. Donc, j'ai fini par me faire virer. Je me suis retrouvé au chômage, à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Et j'en ai fait une dépression, quoi. C'était horrible. D'abord, j'avais honte, donc je l'ai caché à tout le monde, même à ma famille.
Et puis, c'est terrible ça, hein, parce qu'il y a des maladies honteuses. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément une maladie vénérienne. La dépression, c'était peut-être la plus honteuse des maladies. On le dit jamais.
Oui, bon, ça c'est...
Alors que quand on casse, on le dit. On dit, je me suis cassé une jambe, je me suis cassé le dos, je me suis... Alors que la dépression, comme si la tristesse était quelque chose...
Parce que quand on se casse quelque chose, quelque part, ça vient assez souvent d'une cause extérieure, vous voyez, à nous-mêmes, ou en tout cas extérieure à notre décision. Tandis que par rapport à la dépression, chacun peut penser qu'on a une part de responsabilité, ou qu'on se prend pas en main, qu'on se laisse aller.
On s'écoute, il s'écoute.
Voilà, c'est ça. Je pense que la culpabilité peut venir de là.
Chuchote.
La honte, en tout cas, mais la honte venait aussi pour moi du chômage, tout simplement. Vous voyez, je l'ai caché à tout le monde. Ouais. Je disais que j'étais en création d'entreprise. Ça a duré un peu longtemps, parce que je suis resté quand même 2 ans au chômage. Mais j'y ai trouvé des bénéfices. J'ai trouvé des bénéfices, puisque, en fait, au bout d'un long moment, j'ai réalisé que j'existais toujours. Ça peut sembler bizarre de dire, mais je n'avais plus d'existence professionnelle. Comme j'avais fait une dépression, j'avais beaucoup maigrir. J'ai jamais été gros, mais là j'étais vraiment
non,
pas beau à voir. Voilà, je possédais rien. Enfin, je pouvais me raccrocher à rien de valorisant dans ma vie. Et j'ai senti que j'existais toujours. Donc, c'était un drôle de sentiment. Et à partir de là, en fait, je me suis beaucoup détendu. Et je crois que c'est à ce moment que des choses ont émergé en moi qui correspondaient à des envies de ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi.
Donc, écrire.
Alors, pas tout de suite, en fait. Ça, c'est venu 15 ans plus tard. Mais c'était juste une direction, vous voyez. J'avais envie de travailler dans les relations humaines. Alors qu'à l'époque, j'étais encore maladivement timide et je me soignais pour ça. Enfin, je me soignais indirectement. C'est-à-dire, je lisais énormément de choses sur la psychologie et les relations humaines. Mais j'ai décidé de reprendre des études en psychologie cognitive, en sciences humaines.
Vos premières amours, en fait.
Mes premières amours, voilà, exactement. Et puis, je suis devenu consultant, formateur en relations humaines.
Pour un timide, c'est pas mal. Hein.
Ouais. Et j'ai exercé ce métier avec passion, je dois dire, pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 2006.
Où vous avez écrit.
Où j'ai pris la plume, en effet.
D'accord. Et maintenant, vous ne faites plus que ça, écrire.
Je ne fais plus que ça.
Il y a pas mal.
Depuis 8 ou 9 ans.
D'ailleurs, des livres de plus en plus gros. Le dernier, hein, « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi », qui est édité chez Kero. Il est bien passionnant. J'essaye de faire court. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est belle, qui est brillante, qui est intelligente, qui est généreuse. Et elle décide d'aider son copain d'enfance, qui est un jeune curé, qui n'a pas un chat dans son église. Et pour cela, elle applique les règles du marketing qui font sa réussite professionnelle à elle. En travaillant sur le dossier, elle découvre la religion chrétienne, souvent assez éloignée de l'homme qui l'a inspirée, Jésus, les religions et les philosophies orientales, le développement personnel à l'américaine, entre autres. Et elle fait une découverte tout à fait incroyable. Hein. On ne va peut-être pas le dire ici pour ne pas dévoiler, ou en tout cas on va le dire au cours de l'émission. Elle fait même plusieurs découvertes qui sont tout à fait incroyables. Et l'une de ces découvertes, c'est le rôle que joue l'ego dans notre vie. Et puis parallèlement à ça, il y a une intrigue. Le curé va-t-il arriver à remplir son église? Et si oui, comment? Et comment il va lui aussi se débrouiller dans sa vie? Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est donc édité chez Kero. Et nous allons tout au long de cette heure avec vous, Laurent Gounel, voir les pépites qu'il y a dans ce livre et qui correspondent à état d'esprit, c'est-à-dire philosophique, spirituel, développement personnel. Rien de ça correspond vraiment, mais tout correspond un peu en fait.
Too low to see, yeah.
Nothing from Nothing, c'était Billy Preston qu'on appelle parfois le cinquième Beatles. Vous écoutez État d'esprit sur France Inter, mais ma foi, c'est une bonne idée.
Si vous prenez la vie de quelqu'un qui habite à Paris dans un immeuble et qui se lève le matin, qui va au boulot avec des gens qui sont pas très gentils avec lui à son boulot et qui revient et qui gagne pas beaucoup d'argent, et que... c'est pas très marrant ce qu'on en fait de la vie. Il y a une espèce de déception, on est sur cette terre. Et puis, quelquefois, les vies qu'on a sur cette terre sont pas rigolotes, quoi. C'est ça que, d'un point de vue cosmique, si vous voulez, d'un point de vue, on est sur la terre, ça dure pas longtemps, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce passage sur la terre? Qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, quelque chose de pas très intéressant.
Voilà, Alain Souchon que nous entendrons cet été sur France Inter. Vous savez, dans les feuilletons sur les chanteurs produits par les radios francophones, c'était un petit avant-goût. Notre Alain Souchon qu'on adore et qui sait si bien parler de la vie, comme vous, Laurent Gounelle, sauf que lui, il la chante et vous l'écrivez. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est édité chez Kero. C'est un petit peu ce que vous avez vécu, vous aussi, cette vie au quotidien que vous trouviez triste ou nette.
Oui, tout à fait. Et avec le recul, je sais que cette crise professionnelle, parce que je peux l'appeler ainsi, était en fait une transition. Et je pense que les crises en général, qu'elles soient professionnelles comme celle-là ou personnelles, les crises sont nécessaires pour permettre la transition. Elles accompagnent la transition. Donc dans l'instant, on souffre et personne n'aime souffrir. Donc on est en colère parfois ou déçu de ce qui nous arrive parce qu'on ne sait pas, on ne le saura qu'avec le recul et parfois des années plus tard, qu'en fait c'était un mal nécessaire finalement puisque c'est cette crise qui nous a permis de passer à autre chose.
D'accord. Donc la crise a une fonction.
Exactement, la crise a une fonction et je pense, et je ne suis pas le seul à le dire, que c'est ce qu'on est collectivement en train de vivre.
La planète.
Voilà, au niveau de la planète, au niveau de nos sociétés, on parle de crise financière, ensuite de crise économique. Moi je pense que c'est une vraie crise sociétale ou une crise de civilisation. Donc comme on est en plein dedans, on souffre, il y a plein de gens qui souffrent, c'est assez terrible. Et je pense que ça va déboucher sur quelque chose de positif.
Donc on souffre, il vaut mieux l'accepter. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout accepter en disant merci. Mais on peut se battre pour améliorer, mais on ne peut pas être en colère en permanence.
Et en tout cas, je pense que ce serait une erreur de vouloir retourner à la situation passée. Oui. On ne peut pas lutter contre le changement. La vie est changement. La vie est mouvement, changement, impermanence, disent les bouddhistes.
Seule l'impermanence est permanente.
Oui, et donc une forme d'acceptation, comme vous l'évoquiez à l'instant, Noël, est aussi une forme de sagesse dans cette situation.
Donc voilà, ce changement qui nous arrive individuellement, parfois, chers certains s'accrochent à leur passé, puis d'autres n'en ont pas forcément besoin d'ailleurs. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir dans sa vie des changements et des crises.
C'est une question que je me suis souvent posée, Noël. Est-ce que c'est nécessaire d'en passer par des crises pour évoluer finalement ? Ou est-ce qu'on peut imaginer une évolution tranquille, calme et sereine ? Alors, je veux croire que oui, même si ça n'a pas été le cas pour moi, mais je veux croire que oui. Mais ça présuppose sans doute un haut degré de conscience, qui n'est pas forcément ce qui caractérise le plus les êtres humains, en tout cas dans le monde occidental, vous voyez.
Ou alors, ils ont peut-être eu, Laurent Gounelle, des changements doux.
Peut-être, oui.
Ça doit
peut-être
exister, il y a des changements qui sont plus ou moins abrupts.
En tout cas, je pense que chacun est amené à se poser des questions existentielles, à savoir qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, quel est le sens de celle-ci. Et je crois que si on ne se les pose pas à ce moment-là, ces questions viennent à nous, notamment au travers de crises.
Alors dans ce livre, Laurent Gounelle, et tu trouveras le trésor qui est en toi, cette jeune femme donc, qui aide son amie à remplir son église, elle est absolument pas religieuse.
Elle est même profondément athée.
Elle n'y connaît rien, elle bosse le dossier, quoi, comme un autre dossier.
Oui, exactement, comme le dossier d'un client entreprise du cabinet de conseil pour lequel elle travaille.
Voilà, donc son dossier, c'est les évangiles, la Bible, elle y va, et alors elle découvre un truc incroyable, elle découvre finalement que Jésus est là-haut de ceux disent d'une façon assez inattendue à peu près la même chose, et que cela même chose, c'est que notre ego nous encombre et nous empêche de vivre.
Tout à fait. Alors on peut peut-être rappeler ce qu'est l'ego, parce que c'est un terme qu'on utilise finalement au quotidien.
Ouais, sans trop savoir.
On va dire que quelqu'un d'abus de lui-même, il a un ego surdimensionné, sans même savoir exactement ce qu'on met derrière ce mot ego. Alors ce qu'on peut dire de façon très simple, c'est que c'est difficile de savoir qui on est.
C'est vrai.
Et en général, moins on sait qui on est, plus on a envie d'exister. Oui. Alors on va se raccrocher à un certain nombre de choses qui nous permettent d'exister à nos yeux et aux yeux des autres, parce que c'est souvent valorisant. Alors ça va dépendre d'une personne à une autre. ce qui est fréquent, c'est de s'identifier à sa profession.
Qu'est-ce que tu fais ?
Voilà, que si on demande qui es-tu, on va répondre, bah, je fais ceci, je suis écrivain, je suis assistante, je suis ingénieur, etc. Alors que la vérité est qu'on n'est pas notre métier. D'ailleurs, on aurait pu choisir un autre métier et on n'aurait pas été une personne différente pour autant.
C'est juste. Que répondre ? Qui es-tu ?
Et alors, si justement, on va y venir. Alors, certains répondent par leur qualité. Bah, je suis quelqu'un de gentil ou de créatif ou autre. On peut aussi s'accrocher à son apparence physique. Hein. Ouais. C'est pour les personnes dotées d'un physique avantageux et croire qu'on existe à travers notre apparence. Et puis, on peut aussi croire qu'on existe à travers notre culture. Et s'identifier à notre culture. Et ça, il y a un moyen de le savoir, d'ailleurs, c'est si on se sent un petit peu amoindri en présence d'une personne qui a un plus gros bagage culturel ou même qui exprime un désaccord sur nos idées. Vous voyez, si on se sent un petit peu amoindri, c'est comme si l'autre existait plus que nous, ça signifie qu'on s'identifie à notre culture. Alors la vérité, là je réponds à votre question, Noël, c'est qu'on est autre chose que notre profession, nos qualités, notre physique, notre culture ou encore nos possessions. Et ce que l'on est peut difficilement être défini avec des mots. C'est un peu comme les gens qui croient en Dieu. On peut pas définir Dieu. Bah, c'est un petit peu pareil pour nous. Vous voyez, on peut pas nous définir avec des mots. Ce qui est sûr, c'est que ce que l'on est infiniment plus grand et plus beau que ce à quoi on se raccroche. Et finalement, c'est un petit peu l'ego en nous qui cherche déjà à exister et à exister indépendamment des autres. Donc c'est l'ego qui a besoin de cette individualité, de la faire naître. Et ce faisant, il nous éloigne de qui on est véritablement.
Et alors vous écrivez, Laurent Gounelle, que cet ego nous éloigne de qui on est, mais nous éloigne également des autres. Alors qu'a priori, ça pourrait être fait pour entrer en contact avec les autres, puisque c'est une espèce de carapace qu'on fait la plus brillante possible. On passe son temps à la ripolliner pour qu'elle soit belle. Mais ça nous éloigne également des autres. Parce que pourquoi ? Ça fait une barrière ?
Parce qu'en fait, quand on s'identifie à ces choses-là, on tend à jouer un rôle. Vous voyez, le rôle associé à notre profession ou aux qualités qu'on veut mettre en avant, par exemple. Et ce rôle n'est pas nous-mêmes. On voit ça régulièrement à des soirées, des dîners, où finalement, au bout d'un moment, on peut se poser la question, est-ce que ma personne parle à la personne qui est en face ou est-ce que c'est chacun joue un rôle, finalement, auquel cas ça n'a absolument aucun intérêt, puisque ce n'est pas une vraie communication.
Donc, un autre moi-même parle à un autre lui-même,
oui. C'est ça. Oui.
Mais on n'essaye pas toujours avec cet ego d'être brillant. Il y a des gens qui prennent l'option un peu misérable, par exemple.
Oui, ce qui est une autre forme d'identification de l'ego. C'est là on peut avoir un certain nombre de bénéfices à s'identifier volontairement et sciemment à quelque chose qui est a priori pas une image du winner, vous voyez. Alors, surtout en France, d'ailleurs, on peut se complaire dans une image un peu...
surtout en France, parce qu'on est râleur.
Oui. Et puis finalement, il y a un côté un peu romantique aussi, à la figure du loser, entre guillemets.
Vous voyez, oui, Chopin, quoi.
Ah, ouais, voilà.
Ça a du charme.
Ça a du charme.
Donc finalement, nous ne sommes pas vraiment qui nous sommes. Nous ne savons pas forcément pour autant qui nous sommes. Parce que là, ce que vous venez de dire, l'ego est quelqu'un qui n'est pas nous, on le sait pas. On l'identifie pas, c'est un peu un truc de fou, comme si on était dédoublé, comme s'il y avait un vrai nous et puis un autre qui sortait de nous-mêmes et puis qui vivait.
Mais en tout cas, l'idée derrière est que pour savoir qui on est, c'est utile, alors c'est une approche négative, hein, vous me direz, mais c'est utile de se défaire de ce que l'on n'est pas. Et donc, pour ça, d'accepter la part de vertige qu'on peut ressentir face au vide, parce que finalement, il y a une peur du vide, d'ailleurs. On se dit, c'est bien joli, ça, mais si je suis pas ma profession, si je mets plus en avant ma beauté, si je suis beau, mon intelligence, ma culture, mes possessions, ben, je vais plus exister. On peut avoir cette peur.
Voilà. Bah, complètement. Voilà.
Et donc, en fait, l'idée est d'accepter cette peur, pas lutter contre, et accepter d'aller vers le vide, finalement, de se libérer de ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que notre véritable moi, notre véritable soi, avec un S majuscule, émerge. Et là, on réalise déjà que notre personne a beaucoup de valeur, indépendamment de ce que nous faisons, indépendamment de nos résultats, indépendamment de notre apparence physique, de nos possessions, de notre culture. Enfin, on n'a rien besoin de faire pour exister, et même pour avoir de la valeur aux yeux des autres. Et quand on expérimente ça, mais c'est une expérience quasi mystique, quand on expérimente ça, et bien à ce moment-là, on se détend parce qu'on sait à ce moment-là qu'on n'a plus besoin de tout ça. Ce qui veut dire aussi, par rapport à nos actions dans la vie, parce qu'on n'est pas tous des contemplatifs, ça nous donne un vrai choix à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on peut choisir nos actions en réponse à une sorte d'appel très profond, d'envie véritable de ce qu'on a envie de faire, et pas juste par conformisme social ou volonté d'être reconnu, d'être apprécié par les autres.
Ne pas avoir peur du vide.
Ouais.
Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'existera plus. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, Laurent Gounelle, c'est probablement grâce au chômage et à la dépression, et Dieu sait que j'en ai souffert, Mais c'est grâce à ça que j'ai été obligée de changer. En fait, c'est une espèce de vide qui vous a été imposé, quoi.
Exactement, que j'ai subi à l'époque et qui a été salutaire.
Is there a light you have inside you can't touch? A looking glass can only show you so much. Follow the signs, slowly but steady, don't rush. The day will come when you're ready, just trust. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating through the stratosphere. Run me, you see so clear. Is there a way for you to shine without fear? From other worlds, but you can't say what keeps you here. Dancing on the astral plane.
Astral, pleine, Valérie June qui nous chantait « Il y a une lumière ». Valérie June, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste. Elle sait tout faire, cette jeune femme originaire de Memphis.
Noël Bréham, État d'esprit, sur France Inter.
Laurent Gounel, romancier, auteur de « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». C'est un roman qui est édité chez Kero. Nous avons vu avec vous, et vous le dites tout au long du livre, à quel point notre ego, c'est pas que ça nous pourrit la vie, c'est qu'il vit à notre place une vie qui ne nous convient pas forcément. Alors vous proposez peut-être des solutions pour se débarrasser de l'ego. D'abord, vous rencontrez un crack du développement personnel américain dans votre livre qui, je pense, doit correspondre à des hommes que vous avez rencontrés en vrai dans la vie. Laurent Gounel,
oui,
voilà. Alors il propose comme solution de refaire le chemin de son enfance jusqu'à une enfance qu'on imagine merveilleuse et puis de revenir
C'est ce qu'on appelle un rimprinting, c'est-à-dire en fait quand on a eu des souffrances dans le passé qui correspondent à des époques pendant lesquelles on a pu développer un certain nombre de croyances sur soi ou d'habitudes de l'esprit problématiques, ben c'est utile de retourner symboliquement, hein, virtuellement sur une ligne qu'on peut tracer au sol qui va représenter notre ligne de temps, finalement notre vie, ben, marcher vers notre passé jusque à la date de cet événement pour pouvoir recevoir symboliquement, là encore, les ressources qui nous manquaient peut-être à l'époque, et ensuite reparcourir cette ligne de temps jusqu'à aujourd'hui, mais en ayant parmi nos bagages ces fameuses ressources.
C'est quelque chose qui répare, on va dire. Voilà. Et si vous parlez de ça, Laurent Gounel, dans votre livre, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus on a une mauvaise image de soi-même, plus l'ego est gros.
C'est ça, tout à fait. Vous voyez, pendant des siècles, les religions, et notamment la religion chrétienne, essayaient de réprimer l'ego. Et en fait, ça ne marche pas, au contraire. C'est-à-dire, d'une manière générale dans la vie, hein, je crois qu'on renforce ce contre quoi on lutte. Et c'est particulièrement vrai pour l'ego. C'est-à-dire, si vous essayez de réprimer votre ego, il va se développer et enfler. Et donc, une solution consiste à l'inverse, et paradoxalement, à développer un ego, mais un ego sain. Ça veut dire, en fait, apprendre à s'aimer, reconnaître notre valeur, apprendre à aimer qui l'on est lorsqu'on est nu, vous voyez. Et petit à petit, plus on sera convaincu de notre valeur, de la grande valeur qui est la nôtre, eh bien, on réalisera qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour démontrer cette valeur, ni à nous-mêmes, ni aux autres. Et donc, naturellement, l'ego va se dissiper, vous voyez, il va s'évaporer.
Aimer les autres comme soi-même, ça entend bien qu'il faut s'aimer soi-même.
Exactement, et c'est le préalable à tout.
C'est un roman, hein, avec une intrigue, hein, et on est pris comme dans un roman policier. Et là, je parle du message parce qu'on est dans l'état d'esprit. Mais il y a une vraie histoire, je tiens à la rappeler, qui nous tient en haleine. Et vous suggérez, pour sortir de l'ego, de s'aimer, bien entendu, et quand on prie, pas de demander quelque chose pour le recevoir dans le futur, mais de se dire qu'on l'a déjà.
Voilà, ça c'est le personnage d'Alice qui fait des recherches et qui se rend compte qu'on a un petit peu déformé à plusieurs reprises le message initial de Jésus. Et que Jésus conseillait en effet aux gens qui veulent obtenir quelque chose de leur vie de prier avec une formulation très particulière, puisqu'il leur disait en effet, quand vous priez, faites comme si vous l'avez déjà reçu, cette chose que vous désirez tant, et elle sera à vous. C'est très étonnant, parce qu'il ne dit pas supplier le Père créateur de vous accorder cela. Non, non, il disait, faites comme si vous l'avez déjà, elle sera à vous. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que les propos ont été déformés lors des traductions, puisque en fait, il est dit, et cela vous sera accordé. Donc en fait, ça révèle complètement le dualisme qui présage dans l'Église, où on voit le Dieu comme étant une force extérieure à soi et supérieure, qui a pouvoir de décision et de nous accorder un certain nombre de choses.
Comme un patron.
Voilà, alors que Jésus ne le dépeignait pas du tout comme ça.
Deux entités, et en revanche, en Orient, là où Tseu, par exemple, dit que tout ça, c'est la même matière, c'est la même puissance,
oui.
Dieu et les hommes.
C'est ça, et Dieu est au fond de nous. C'est-à-dire, si Dieu existe, hein, si on y croit, ben, c'est au fond de nous, et en tout cas, c'est ce que disait Jésus. Et en fait, l'idée était tellement inacceptable qu'elle a été déformée dès le début. Évidemment, il y a un passage dans les évangiles où les pharisiens demandent à Jésus où est Dieu, et il répond, il est en vous. C'était inacceptable de croire que Dieu puisse se trouver au sein des pharisiens, vous voyez, en chacun d'eux. Et du coup, ça a été traduit par « il est parmi vous ». Ce qui est évidemment totalement différent et ne correspond pas du tout à la pensée de Jésus.
Parce que Dieu est en vous, ça fait prétentieux. Et puis comme le pharisien ne se comporte pas bien, parce que c'est un matérialiste, c'est un nouveau riche, c'est un prétentieux justement lui aussi, parce qu'il s'y croit quand même.
Exactement.
Donc en fait, ça veut dire que nous, on a tous du bon.
Ben, ça veut dire que voilà, il y a une part de divin dans l'homme.
Il faut la trouver.
Ce qui, une fois de plus, va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a pu dire aux petits-enfants, au catéchisme. On leur apprend qu'au fond d'eux, il y a le péché. Et en fait, Jésus disait le contraire, qu'au fond de chacun de nous, il y a le divin. Et si on voit les choses comme ça, c'est-à-dire très intéressant, parce que ça veut dire à ce moment-là que l'homme est en chemin, et par rapport à notre passage sur Terre qu'évoquait Alain Souchon tout à l'heure, ben on pourrait se dire que peut-être l'une de nos missions sur Terre est d'éveiller le divin en nous, vous voyez, comme si l'homme était un peu dans un état transitoire entre l'animal et Dieu, et que c'est à nous de faire le boulot finalement pour éveiller ce divin et le faire progresser en nous, l'amener à devenir prépondérant.
Laurent Gounel, il ne faut pas dire « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faites apparaître de l'eau ». Il faut creuser parce qu'il y a une nappe phréatique là en dessous.
C'est ça. Oui. Et ce qui est troublant, vous voyez, par rapport à ce conseil de Jésus qui est de dire faites comme si vous l'avez déjà quand vous voulez quelque chose et ce sera à vous, c'est que ça correspond, mais quasiment trait pour trait, à une technique, là, en l'occurrence, de psychologie cognitive ou comportementaliste, où en effet, on invite les personnes à croire qu'elles ont déjà obtenu ce qu'elles veulent. Et on sait, mais ça c'est démontré scientifiquement, neurologiquement, que dans ces cas-là, la personne mobilise toutes les ressources qu'elle a en elle, si elle y croit, et même si elle prétend y croire, parce que c'est un jeu de l'esprit, on sait bien au fond de nous qu'on n'a pas la chose en question. Mais si on prétend simplement l'avoir, comme sur le plan neurologique, il y a guère de différence entre le réel et le virtuel, et bien à ce moment-là, on mobilise toutes nos ressources qui vont effectivement nous aider à obtenir la chose en question.
Comme vous l'avez dit, Laurent Gounelle, beaucoup d'expériences ont été menées. Je pense à une qui a été faite sur une classe de primaire aux États-Unis, disons le CP, par exemple. Chez des petits, on a divisé la classe en deux, les bons et les pas bons. Il y a eu une enseignante de remplacement et on lui a menti à la enseignante. On lui a dit voici les bons en lui montrant les moins bons et inversement. Et les élèves sont devenus ce qu'on a présenté à cette nouvelle enseignante. C'est-à-dire que ceux qui avaient été présentés comme les bons sont devenus très bons, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Et ceux qui ont été présentés comme les mauvais, entre guillemets, se sont amoindris.
Tout à fait. Il y a eu plusieurs expériences en ce sens qui ont en effet démontré ça. Alors, il y a un effet sur le plan psychologique que l'on citait à l'instant et il y a peut-être un effet sur un autre plan qu'on pourrait qualifier de spirituel. Je pense notamment aux physiciens quantiques qui tendent à démontrer que le temps n'existe pas et que finalement, la meilleure façon d'obtenir quelque chose, c'est en effet de partir du principe qu'on l'a déjà et même quelque part d'aller jusqu'à ressentir de la gratitude pour ce que l'on aurait, en fait, vous voyez.
Ça, c'est formidable. Je remercie pour ce que j'ai, voilà. Parce qu'il ne s'est peut-être pas encore apparu.
Alors, en fait, je ne les ai pas encore.
Oui, mais ça va émerger. Puisque vous évoquez le temps, j'aimerais vous faire entendre la voix de Guillaume Gallienne, qui lit un extrait du poème épique indien, le Mahabharata, qui a été adapté par Jean-Claude Carrière. C'était au cours d'une émission, ça ne peut pas faire de mal, sur France Inter, qui était justement consacrée à Jean-Claude Carrière.
Ce monde est une roue qui tourne, un passage dans le grand océan du temps. Aucun lien ne résiste au temps. En ce moment, tu ne vois pas tes ancêtres et tes ancêtres ne te voient pas. Tu ne vois ni le ciel, ni l'enfer.
Laurent Gounelle,
oui,
à quoi ça vous fait penser à propos du temps ?
Eh bien, ça me fait penser qu'on demande aux chrétiens de croire qu'il y a un paradis après la mort.
Oui,
donc, vous voyez,
le royaume des
temps,
cieux.
C'est où on se comporte bien aujourd'hui, oui. Puis on ira soit au paradis, soit au purgatoire, soit à l'enfer. Et en fait, au moins 8 siècles avant Jésus-Christ, dans les Upanishads, donc ces textes anciens qui sont plus ou moins à l'origine de l'hindouisme, eh bien, il était déjà écrit que le paradis, l'enfer, tout ça existe, oui, mais en nous, dans l'instant présent.
Ah d'accord, c'est un état.
C'est un état, et finalement
d'esprit.
Pour moi, c'est quand on est, vous voyez, aux prises avec l'ego, qu'on est vraiment dans l'ego, qu'on vit dans l'enfer, et on sait bien que ça va mal, on voit tout en noir, et on fait vivre l'enfer à notre entourage aussi.
Juste.
Mais dans la même journée, à un autre moment, on peut être aspiré vers le paradis, c'est quand on se libère de l'ego, quand on est vraiment dans le réel, dans l'instant présent, vous voyez. Et à ce moment-là, on se sent bien et on fait vivre le paradis aussi aux gens autour de nous.
Donc Laurent Gounelle, quand Jésus dit « Heureux les pauvres d'esprit », je prends cela, « Le royaume des cieux est à eux ». Le royaume des cieux, c'est pas une espèce de Disneyland dans les nuages après la mort où on aura piscine, boisson à volonté et soleil tout le temps. C'est une jolie vie qu'on peut vivre maintenant. Et l'enfer, c'est cette vie d'anxiété... de tracas, de colère. Donc, on peut choisir l'enfer ou le paradis.
Tout à fait.
Enfin, choisir.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, avoir accès.
Ouais. Et royaume des cieux, d'ailleurs, était en effet l'expression utilisée par Jésus. Mais même si des siècles et des siècles après, on croyait que c'était quelque part ailleurs, à l'extérieur de nous-mêmes, et même ses apôtres lui demandent, mais il est où ce royaume des cieux, quand est-ce qu'on le verra ? Et Jésus répond invariablement, mais il est ici et il est en vous. Quoi. Il est déjà là et vous ne le voyez pas. Quoi. Donc, Jésus dit la même chose que les hindous 8 siècles auparavant, à savoir que c'est en nous.
Donc, c'est bien le titre de votre livre. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Il faut le réveiller, en fait. Laurent Gounelle, nous allons voir comment on peut continuer à le chercher pour le trouver, ce trésor qui dort en nous. Votre livre est édité chez Kairos.
D'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air, Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque de Russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire. On flaire, la flamme singulière. On gagne, on perd. On perd la guerre, la super. Merci à la merci de l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flâne. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd. On perd la gagne. Merci à la merci d'un imbutal, du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flâne. On flaire la flamme familière. On gagne, on perd. On perd la gagne, la super.
Benjamin Biolay, La Superbe, c'est le cinquième album solo de Benjamin Biolay qui a été récompensé par un disque d'or.
État d'esprit sur France Inter.
Laurent Gounel, vous venez d'écrire « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi » édité chez Kero. C'est un roman avec du suspense, c'est l'histoire d'une jeune femme qui essaye de faire revenir du monde dans l'église de son copain, qui est curé. Alors elle, c'est une battante, oui. Travaille dans le marketing.
En fait, ils étaient amis d'enfance et elle l'a retrouvé des années plus tard. Et en effet, il était devenu jeune prêtre de campagne.
Elle est parisienne, elle.
Oui, c'est une battante, vous l'avez dit. Et elle se met en tête de l'aider bien cathée parce que, voilà, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, elle l'aime énormément. Et puis en plus, elle lui est un peu redevable, mais bon, on va pas raconter tous les tenants et les aboutissants.
Et alors, en essayant de l'aider, elle applique des techniques de développement personnel pour essayer de faire venir du monde dans cette église où il y a trois vieux qui se courent après.
Parce qu'en fait, elle assiste à une messe de son ami et puis elle se rend compte qu'il est bien tristouné. Et là, elle lui dit, mais comment veux-tu prétendre apporter la lumière à tes paroissiens si toi-même t'es plutôt éteint? Donc, mon vieux, faut commencer par t'aimer toi-même. Et c'est pour ça qu'elle va l'entraîner dans des séminaires de développement personnel pour qu'il puisse développer son estime de soi.
Et en fait, Alice, qui n'y connaît absolument rien à la religion, va faire découvrir des choses à ce jeune garçon qui a fait des études de théologie poussées. Alors, quelles sont ces choses? On en a parlé déjà un petit peu au début de l'heure, Laurent Gonnel.
En fait, pour s'approprier le dossier, elle va lire non seulement les évangiles, mais elle va s'intéresser aux textes fondateurs d'autres mouvements spirituels, comme le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme. Et elle va développer grâce à cela, grâce à ces textes non chrétiens, en fait, une vision différente de Dieu, qui est une vision non dualiste. Consiste à penser que Dieu est en nous, alors que la vision dualiste nous sépare de Dieu, en fait. Et donc ces religions, souvent d'Extrême-Orient, voient Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui change beaucoup de choses, en fait, pour pas dire qu'il change tout, finalement, parce que ça présuppose que l'éveil, c'est un terme purement oriental, mais l'éveil passe par un travail sur soi.
Il faut se cultiver soi-même pour arriver à la hauteur de ce qu'on est, finalement.
Oui, se cultiver, mais non, pas que pas intellectuellement, parce que quand on dit cultiver, souvent, en Occident, on entend la connaissance à un niveau mental, cérébral. Oui, on va beaucoup lire, on va accumuler des connaissances. Et il y a une distinction néanmoins entre la connaissance intellectuelle et ce qui passe dans le muscle, j'ai envie de dire. Oui. Et donc là, il s'agit véritablement pas de se purifier, mais en tout cas de devenir une meilleure personne. Oui. Donc il y a un véritable travail d'évolution personnelle.
Ça présuppose que l'homme est bon.
Oui, et que l'homme est en chemin. L'homme n'est pas fini, si vous voulez. Et on le voit bien, de toute façon, regardez même à la naissance, vous prenez, je sais pas, un poulain ou un petit chat, quelques heures à peine après sa naissance, il va tout de suite être capable de se lever, voire même de marcher, de courir, et il fera pas grand-chose de plus dans sa vie. Alors un être humain n'est pas fini, vous voyez. Il faut 20 ans déjà pour qu'il puisse se comporter comme un adulte, ce qui est pas rien. Ouais. Et en fait, ça s'arrête pas là. Moi, j'ai longtemps pensé, quand j'étais gamin, qu'une fois adulte, c'était fini. Voilà, une fois quitté les bancs de la fac, que je serais fini. Et en fait, non, on est sur un chemin permanent que je vois moi comme un chemin de quête de sagesse ou de quête de la divinité en soi. Là, c'est plus asiatique. Et donc, ça présuppose que ce travail sur soi va durer toute notre vie et que ce n'est pas un travail laborieux. En fait, c'est un travail qui nous illumine. C'est-à-dire, au fur et à mesure où on avance pas à pas sur ce chemin, ben, on se sent mieux, on se sent plus heureux, plus épanoui et plus relié aux autres.
C'est pas pénible.
Non, loin de là.
Même si vous avez dit quand même que parfois les crises amenaient à s'améliorer, qu'on ne savait pas très bien si on pouvait s'améliorer sans avoir traversé de crise,
oui,
finalement, souffrir, c'est obligatoire.
Ah, mais c'est Eschyle qui a invité à souffrir pour comprendre.
Ouais. On aimerait bien faire l'économie quand même.
Oui, j'aime pas trop cette vision d'ailleurs. Alors souffrir, je sais pas, en tout cas l'effort est nécessaire. Ça, je pense qu'on n'a rien sans rien. C'est vrai qu'on est un peu dans une société de la facilité où, paradoxalement, on nous demande de souffrir au travail pour ensuite acquérir des plaisirs à consommer, vous voyez. Et en fait, je pense que c'est le fruit d'une vision purement matérialiste de la vie. Ouais. Qui n'apporte pas l'éveil, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc finalement, d'après ce qu'est en train de découvrir votre héroïne Alice, son copain curé aussi, mais de lui c'est plus attendu, on se trompe dans notre vie en voulant réussir notre métier, en voulant réussir notre vie matérielle, en voulant que nos enfants fassent des bonnes écoles.
Je ne sais pas si on se trompe, mais en tout cas, ce n'est pas forcément l'essentiel. Je pense que l'essentiel n'est pas là. Il n'y a rien de mal, évidemment, à chercher à avoir un bon métier, ni même à gagner sa vie. Et en effet, ça permet d'avoir un certain confort de vie, de se payer des plaisirs. Et il n'y a pas de mal à cela. Et ce n'est pas honteux. Oui. Et là aussi, le catholicisme a beaucoup induit les gens en erreur par rapport à cette notion de péché. Péché, en fait, ça vient d'une mauvaise traduction d'un terme qui signifie se tromper d'objectif. Vous voyez, on ne fait pas le mal. Hein. Ouais. Même quand on se laisse aller, je ne sais pas, la gourmandise ou des tas de choses comme ça qui sont dénoncées comme étant des péchés capitaux ou autres. En fait, on ne fait pas de mal. C'est juste qu'on ça ne nous emmènera pas au bonheur. Oui, on se trompe d'objectif. L'objectif, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est l'éveil.
Dans les religions, on nous fait souvent peur. Il y a de la menace.
Oui, il y a beaucoup de menaces, oui. Il y a de la culpabilisation. Tout ça est non seulement inutile, mais c'est contre-productif.
Comment vous vous en êtes aperçu, vous, Laurent Gonnel, finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on vous a appris?
Non, surtout moi, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse parce que mes parents étaient issus de deux religions différentes, donc c'était un peu la guerre de religion à la maison.
Un protestant, un catholique.
Voilà, ça peut sembler très proche puisque ce sont deux religions chrétiennes.
Les guerres, les pires sont les guerres à l'intérieur d'une même famille.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Dans la famille de mon père, je crois qu'on n'avait toujours pas digéré la Saint-Barthélemy.
Cinq siècles. C'était violent, faut dire.
Oui, c'est vrai. Et donc, la résultante est que je n'ai pas eu d'éducation religieuse, ce qui me confère finalement une totale liberté par rapport à tout ça, vous voyez. Mais pour répondre à votre question, en fait, moi, j'ai d'abord découvert les spiritualités orientales et notamment le taoïsme avant de véritablement comprendre et pouvoir apprécier le christianisme.
Dans votre livre, cette jeune fille Alice qui veut aider son amie, tout est bon pour vendre de la religion parce que c'est son job à elle de faire vendre.
Oui. Complètement. Bah, moi, vous savez, ma quête de la vie bonne, hein, comme disaient les Grincanciens, ma quête du bonheur est de l'âge de 23 ans, j'en ai 50 aujourd'hui. Mmh. Et en fait, ça date précisément de cette fameuse crise professionnelle et de cette dépression que j'ai vécue. Et c'est à partir de là où la question du sens s'est imposée à moi. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir une bonne vie? Vous voyez, c'est cette question qui m'anime depuis cet âge-là. Je crois que c'est vraiment intéressant d'explorer différentes religions. Moi, j'avais un ami chrétien qui m'avait dit « Ah non, moi je ne veux pas entendre parler de bouddhisme, il n'y a qu'une vérité. » Et pour moi, ce serait aussi aberrant de ne s'intéresser qu'à une religion que de ne s'intéresser qu'aux travaux d'un seul philosophe, vous voyez, ou en psychologie, de rester dans un seul courant de pensée. C'est vraiment intéressant et enrichissant de s'intéresser à différents courants de pensée en psychologie, à différents philosophes et donc à différents mouvements spirituels.
Quand le rouge se noie tout au fond de ses yeux, teinté de gris, teinté de noir, mais jamais plus teinté de bleu. Le ciel se voile au-dessus ce soir. Quand l'air se déchaîne jusqu'au bout de mes ailes, l'orage pose ses dernières forces pour que l'envol redevienne frêle. Et le vent souffle si fort ce soir. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. L'orage s'installe dans ses mains, dans ses gestes, les mouvements s'emballent, il est tout. Elle danse autour de moi, elle m'accompagne, étant l'escorte qui sera mienne. Il me désarme et puis me gagne, et je leur cède à cœur ouvert. Les larmes coulent dans les flammes et les éteignent. Après les larmes vient le silence, il dit qu'il reste, il dit qu'il m'aime, et je l'accueille à bras ouverts. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. L'orage s'installe dans ses mains, dans ses gestes. Les mouvements s'emballent, il est tout. Et je reste là à le voir manquer d'air. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. Tout s'installe dans ses mains, dans ses gestes. Les mouvements s'emballent, il en crève. Et je reste là, juste au bord de l'enfer.
Le nouveau single de Bessa, de l'homme à l'animal, dans État d'esprit sur France Inter.
Le corps humain pourrait bien n'être qu'une apparence. Il cache notre réalité. Il s'épaissit sur notre lumière ou sur notre ombre. Non, ce n'est pas de la théosophie, c'est de Hugo, votre Victor Hugo, les travailleurs de la mer.
Voilà, c'était la voix de Daniel-Émile Fort, qui a une voix tout à fait extraordinaire. Et c'était extrait du film d'Alain Corneau, Nocturne indien, tiré du roman d'Antonio Tabucchi. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte, particulièrement de la dernière phrase, Laurent Gounelle ?
C'est drôle, ça m'évoque une parole de ma fille Léonie, lorsqu'elle avait 5 ans. Je vais la réveiller un matin, et là, elle se frotte les yeux dans son lit et elle me dit « Mais tu sais papa, si ça se trouve, on n'existe pas vraiment. Si ça se trouve, on est le rêve de Dieu. »
Drôle.
Alors, j'étais très très surpris qu'à 5 ans, elle formule une telle pensée, surtout qu'on ne parle vraiment pas de Dieu tous les jours à la maison, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est intéressant en fait par rapport à ça, c'est de s'interroger sur notre vision de la vie, notre vision de l'existence. Et c'est vrai qu'en Occident, depuis qu'on a, et sans doute à juste titre, d'ailleurs tourné le dos aux religions il y a 2 siècles avec la Révolution, on s'est libéré de l'emprise quelque peu excessive que les religieux avaient sur nos vies, sur la conduite de la cité aussi, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et on a très majoritairement adopté une vision matérialiste de la vie. selon laquelle la vie est matière. Voilà, nous sommes un ensemble d'atomes appelés à disparaître, et avant et après, il n'y a plus rien. Et en fait, moi, je trouve, avec le recul, moi qui, comme je vous le disais, une grande liberté par rapport aux religions, eh bien, je trouve que cette vision matérialiste est quand même assez pathétique. Parce qu'elle signifie qu'à partir de l'âge de 20 ans, on est sur le déclin. À partir de 20 ans, on perd nos neurones, le corps s'abîme. Ça veut dire que l'immense majorité de notre vie, hein, si on espère vivre jusqu'à 80 ans, c'est à peu près la moyenne, eh bien, l'immense majorité de notre vie se vit sur le déclin. Donc ça interpelle quand même. Et c'est difficile même de croire que c'est la vérité. Et alors qu'une vision, spirituelle, qui admet un autre sens à la vie, peut-être notamment comme un passage, vous voyez, comme le fait qu'il y ait, peut-être que l'âme n'est pas juste un sous-produit du cerveau, mais existe peut-être indépendamment du corps, ce que de plus en plus de scientifiques tendent à non pas encore à démontrer, mais en tout cas à entrevoir, voilà. Et bien à ce moment-là, ça vous donne une vision très différente de votre existence, de votre propre vie. Et je pense aussi que ça a des effets positifs. Par exemple, ça vous libère quelque peu du consumérisme effréné, puisque finalement, s'il n'y a rien après notre mort, on va en profiter un maximum. Donc ça nous pousse à la consommation. Et ça nous libère aussi sans doute d'un certain égoïsme. Je pense que l'égoïsme, l'individualisme, qui sont l'un des grands mots de notre époque et qui rendent tout le monde malheureux, sont une conséquence de la vision matérialiste. Parce que vous voyez, si on pense que chacun n'est fait que de matière, ben finalement, on ne va pas faire tellement attention aux autres. Alors si on considère que de manière invisible, nous sommes reliés les uns aux autres, ben ça nous amène à reconsidérer complètement la relation à l'autre.
Si on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi-même, en fait.
Exactement.
C'est comme si notre main droite griffait notre main gauche. C'est un peu, ça n'a pas de sens. Et puis d'être lié peut-être à la nature, d'être lié au cosmos, d'être...
à l'univers, ce que les Amérindiens appellent le grand tout.
Laurent Gounel, je rappelle que vous avez écrit « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». C'est édité chez Kero. C'est qu'on passe son temps à chercher... ou à prier, à demander d'obtenir ce que finalement vous croyez que nous avons tous, même les pires d'entre nous. Finalement, il n'y a pas ceux qui ont reçu les bonnes cartes et ceux qui ont reçu les mauvaises cartes. On a à peu près tous reçu le même jeu.
Tout à fait, mais comme la réponse est en nous, ça présuppose aussi de tourner notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, vous voyez, dans un travail introspectif qui n'est plus dans la culture occidentale. Où on est de plus en plus amené à porter notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. Vous voyez, notre attention est accaparée par les médias, par
les réseaux
sociaux, les SMS, et des choses qui en plus induisent en nous des émotions. Et donc on peut avoir tendance à développer même des dépendances à l'égard de cet extérieur qui produit en nous des émotions.
Parce que c'est amusant.
Pas de mal à ça d'ailleurs. Mais la seule chose, c'est que au bout d'un moment, on peut se couper de soi-même. Alors que la réponse, le trésor, est en nous. Donc c'est utile de développer une intériorité. Je pense que l'être humain a plusieurs dimensions et l'intériorité en est une.
Si on a peut-être du mal à se tourner vers soi-même, Laurent Gounel, on est très très sollicité par l'extérieur, vous venez de le dire, mais c'est qu'on a peur du vide, on a peur du noir, on a peur du rien, du néant. C'est normal que ça fasse peur quand même. Et peut-être que si on sait qu'il n'y a pas rien, on a moins peur.
Tout à fait, et là aussi, il y a un petit lâcher-prise à faire pour accepter. Alors ça peut être sous la forme d'une petite expérience, c'est-à-dire vous voyez, prendre quelques minutes le soir et s'autoriser le vide. Rien à faire, on éteint toutes les machines, les télés et compagnie, et on n'a même pas un objectif en tête. On s'accorde 3 minutes de silence et de vide.
À rien faire.
Voilà, à rien faire. Et en fait, alors déjà au début, vous allez avoir un flot incessant de pensées, et c'est normal, là aussi, ne pas lutter, accueillir. Et au bout d'un moment, ce qui viendra, ce seront des choses qui viendront du plus profond de vous-même. Et ça correspondra sans doute à des envies véritables et non plus des désirs inculqués par l'extérieur.
Laurent Gounel, « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi », c'est édité chez Kero. C'est le titre de votre roman. C'est un roman palpitant. Nous, on a parlé du message parce que nous sommes dans État d'esprit, mais il y a une histoire palpitante. Merci d'être venu ce soir à État d'esprit.
Merci beaucoup, Noël.
La semaine prochaine, il n'y aura pas d'état d'esprit pour cause d'élection. La semaine suivante, j'espère bien que vous serez au rendez-vous parce que nous allons parler des arbres. Vous pouvez télécharger cette émission, l'écouter quand bon vous semble et la partager avec vos amis. Merci à Simone de Poux pour sa réalisation, à Emmanuel Fournier pour sa préparation, à Michel Bézikian pour sa prise de son et à Muriel Pérez pour sa programmation musicale. Restez avec nous puisqu'après les informations, eh bien Brigitte Patient dans Regardez voir recevra Xavier Barral et Philippe Séclier.